Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, l'Arabie Saoudite est en deuil. Le roi Abdallah est mort dans la nuit de jeudi à vendredi. Son demi-frère Salman lui succède. Investir l'après-pétrole, c'est l'objectif des Émirats du Golfe qui ont organisé cette semaine leur 8e sommet mondial des énergies du futur. Et puis la revue de presse croisée, Israël, monde arabe, le regard de Michel Paul à Jérusalem et d'Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Le roi Abdallah d'Arabie Saoudite est mort. L'annonce en a été faite hier vendredi à 1h du matin. Le souverain, malade, était âgé de 90 ans environ. Olivier Dallage, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous depuis Bombay, en Inde. Alors la succession du roi décédé se fait finalement normalement. Elle se fait donc sans heurts, c'est votre impression?
Oui, et ça n'est pas une surprise pour plein de raisons. D'abord parce que l'état de santé du roi, qui était très âgé, n'était pas une surprise non plus. Donc tout a eu le temps d'être préparé. Le prince héritier avait été désigné et le roi avait également désigné un vice-prince héritier, ce qui est un poste qui n'existait pas. Et ce vice-prince héritier, le prince Moukrin, vient d'être confirmé par le nouveau roi Salman comme étant son propre prince héritier. Donc tout s'est passé exactement comme ça devait se passer.
Alors la désignation comme second héritier, donc cette finalement nouveauté qui a été introduite l'année dernière, désigne le prince Mohamed Ibn Nayef. Et alors là, ça c'est peut-être une vraie nouveauté puisque c'est l'apparition de la troisième génération des Saouds.
En effet, alors il faut revenir un petit peu en arrière. En 1992, le roi Fahd a fait promulguer des lois fondamentales qui, pour la première fois, ouvraient la succession au petit-fils du fondateur du royaume, Abdelaziz Ibn Saoud. Ibn Saoud a eu de très nombreux fils, plus d'une cinquantaine. Et le plus jeune, c'est justement le prince Moukrin, qui vient d'être désigné prince héritier, qui est né en 1945. C'est le dernier de cette très longue fratrie, ce qui fait d'ailleurs qu'il est plus jeune qu'un certain nombre de ses propres neveux. Et pour la première fois, en effet, celui qui vient après sera de la génération suivante. Et la question qu'on se posait, c'est quelle est la lignée qui serait favorisée? Parce que, bien entendu, tous les fils de rois pouvaient prétendre à être sur la ligne de départ. Et c'est donc Mohamed Ibn Nayef, le fils de l'ancien ministre de l'Intérieur, qui a été éphémère prince héritier avant de mourir avant son roi, il y a 2 ans, qui sera donc le premier de la génération suivante à inaugurer le règne en Arabie Saoudite lorsque le roi et son prince héritier seront à leur tour partis.
Et donc, sur le plan politique, aussi bien intérieur que politique extérieur, c'est plutôt la continuité, selon vous ?
C'est la continuité dans un environnement qui, lui, bouge beaucoup. On a vu ce qui s'est passé cette semaine au Yémen, où le leader du mouvement des houthistes a pris la parole à la télévision après avoir encerclé le palais présidentiel et forcé à la démission le président du Yémen, qui, de manière tout à fait ironique, a annoncé sa démission quelques heures seulement avant que le roi d'Arabie meure. Vous avez également les tensions avec l'Iran, la crainte énorme en Arabie Saoudite d'un accord entre les États-Unis et l'Iran, la situation au nord, à la frontière nord avec la Syrie, l'Irak et l'État islamique, et bien entendu les risques de terrorisme interne, puisque les partisans de l'État islamique et des différentes composantes djihadistes sont assez nombreux en Arabie Saoudite. Donc l'environnement, lui, est très dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de continuité dans la politique, mais il va falloir être réactif. Et l'Arabie Saoudite n'est pas toujours très réactive. C'était d'ailleurs peut-être un des traits distinctifs du roi Abdallah, d'être capable d'improviser dans des situations tendues.
Et sur le plan intérieur, y a-t-il des choses à attendre de cette succession ?
Si vous voulez dire est-ce qu'il y a de la libéralisation à attendre, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Le roi Abdallah, qui avait la réputation d'être un réformateur, a quand même signé tous les ordres d'exécution durant son règne. Il y en avait quand même de très nombreux. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, ce jeune blogueur saoudien a reçu la première série de coups de fouet, 50, d'un total de 1000 auxquels il avait été condamné. Les Saoudiens viennent d'adopter des lois extrêmement répressives qui considèrent que l'athéisme relève du terrorisme. Et je pense que de ce point de vue-là, il n'y a pas beaucoup de changements à attendre.
Merci Olivier Dallage, journaliste à la rédaction de RFI et également spécialiste de l'Arabie Saoudite. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Bombay en Inde.
Orient Hebdo sur RFI.
هيفاك الهلال On reste dans la péninsule arabique pour parler des projets de développement des Émirats avec notre invité, entretien enregistré il y a quelques jours. François Aïssa Touazi, bonjour.
Bonjour.
Ancien conseiller Afrique du Nord, Moyen-Orient au ministère français des Affaires étrangères, cofondateur du MENA Economic Forum. Vous conseillez également un fonds d'investissement et une grande entreprise du CAC 40 pour les questions liées au monde arabe. Vous publiez aux éditions du Moment « Le ciel et leurs limites », un ouvrage consacré aux dirigeants du Golfe arabo-persique. Alors les pays du Golfe sont l'objet, on le sait, de tous les fantasmes. Il faut dire que ces dernières années, ils se sont fait une place dans le monde de la finance internationale, et cela dans tous les domaines, l'immobilier, l'industrie, les médias et même le sport. En France, on connaît leur participation dans des entreprises comme Total, LVMH, Lagardère ou Veolia. Le Qatar est au capital du club de football du Paris Saint-Germain et l'émir possède de nombreux immeubles, dont un hôtel particulier en plein cœur de Paris. François Aïssa Touazi, par quel miracle cette région est-elle passée d'un quasi-désert peuplé de bédouins, de pêcheurs ou de pirates à une région aussi riche et dynamique ?
Bien sûr, il faut le dire que cette richesse est due essentiellement au fait qu'ils possèdent beaucoup de pétrole et de gaz. Et on a vu une montée en puissance des pays du Golfe dans tous les secteurs, et grâce notamment à une diversification qui est beaucoup plus réfléchie qu'on ne le pense. Et les pays du Golfe ont préparé cette diversification il y a bien longtemps, parce qu'ils ont pris conscience très tôt que le pétrole qui avait fait leur force pouvait aussi faire leur faiblesse. Et ils ont surtout su exploiter très intelligemment leur avantage comparatif. Alors leur avantage comparatif, ils en ont trois. Donc c'est d'abord cette énergie très abondante, des liquidités, plus de 2000 milliards de dollars, et également cette situation de carrefour, de hub entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, qui font d'eux un acteur incontournable dans les échanges internationaux.
Y a-t-il des différences d'approche selon les États concernés de cette région, par exemple entre la grande Arabie Saoudite ou le petit Bahreïn, la façon d'approcher l'avenir ?
Il y a quand même des disparités entre tous ces pays, mais des disparités qui sont souvent dues à des orientations politiques. L'Arabie Saoudite est plus refermée, plus repliée sur elle-même. Elle privilégie d'ailleurs son développement domestique. C'est pour ça qu'elle investit beaucoup en Arabie Saoudite. On a une approche plus marketing, plus ouverte sur la mondialisation, qui est propre aux Émirats Arabes Unis et au Qatar aussi. Le Koweït a été profondément déstabilisé par, bien sûr, la guerre avec l'Irak et est en proie à une certaine forme d'instabilité politique due quand même à l'existence d'un parlement qui est très agissant et qui paralyse parfois la vie politique koweïtienne. Et Oman a également ce développement qui lui est propre. Et puis également, il faut le reconnaître qu'il y a des disparités au niveau géopolitique. On sait très bien qu'il y a une opposition que l'on a vue d'ailleurs ces derniers temps entre certains pays du Golfe, même si la situation s'est améliorée récemment et le sommet de Doha l'a montré, entre l'Arabie Saoudite, les Émirats, Bahreïn, qui sont très opposés aux frères musulmans, qui considèrent les frères musulmans comme une menace pour leur existence. Le Qatar, qui privilégie, lui, les relations avec les frères musulmans. Et puis Oman, qui a une diplomatie particulière, qui devient un peu le passage incontournable lorsqu'on veut discuter avec l'Iran.
Ce qui est important, puisque les relations avec l'Iran sont, semble-t-il, en train d'aller vers plus de normalisation, semble-t-il.
Oui, et ça inquiète beaucoup d'ailleurs les pays du Golfe, qui sont très inquiets devant ce rapprochement entre Washington et Téhéran, même si les discussions à Vienne n'ont pas abouti.
Alors la réussite de ces pays, est-ce qu'elle provient aussi, puisqu'ils ont amassé beaucoup d'argent, de leurs fonds souverains?
Oui, alors les fonds souverains ont été au cœur de cette politique de diversification qui s'est articulée autour de plusieurs axes. Les pays du Golfe ont tout d'abord misé sur la maîtrise de l'amont et de l'aval du secteur pétrolier. Et là, ils ont créé des géants, comme notamment SABIC, le géant saoudien de la pétrochimie. Et ça, bien sûr, les fonds souverains ont financé le développement de ces grands groupes. Deuxièmement, il s'agissait pour les pays du Golfe de moderniser leur pays. Donc, ils ont investi beaucoup dans leurs infrastructures. Routes, aéroports, les aéroports qui sont en train de devenir le pétrole de demain, quand on le voit notamment au projet gigantesque de Dubaï, qui va construire d'ailleurs le plus grand aéroport du monde, le Dubai World Central, qui devrait accueillir 180 millions de passagers en 2025. Donc, il y a des investissements considérables qui sont faits localement, donc parce qu'ils préparent l'après-pétrole. Et de l'autre côté, ils ont investi dans des secteurs qui considèrent manière stratégique, toujours dans cette logique de hub, l'aéronautique bien sûr, les télécoms, la finance, en développant des centres importants qui rayonnent au-delà du pays du Golfe. Et il faut également le dire que les fonds souverains jouent un rôle important, mais également de riches familles qui ont développé des groupes tentaculaires qui eux aussi s'activent, qui se développent non seulement au niveau régional, mais au niveau mondial en investissement aux quatre coins de la planète.
C'est l'un des points que vous pointez dans votre livre, Le ciel et leurs limites, c'est la qualité d'un certain nombre de dirigeants de cette région.
Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est très méconnu ici en Occident, c'est la qualité de beaucoup de ces dirigeants qui se sont une capacité d'adaptation à la mondialisation qui est surprenante. Ils voyagent beaucoup, ils s'entourent d'experts venant des plus grandes universités anglo-saxonnes, ils apprennent beaucoup des autres et je crois que c'est aussi la clé, une des clés de leur réussite.
Et est-ce que le fait que la plupart de ces monarchies justement sont dirigées par des monarques, par des émirs, est-ce que c'est un frein ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui a permis l'éclosion de cette région?
Bah, tout dépend. Il y a quand même eu des monarques visionnaires hein, dans cette région. Je pense notamment à Cheikh Zayed hein, qui a contribué considérablement à la modernisation des Émirats Arabes Unis, qui est au cœur de la création de la fédération et qui a d'ailleurs permis au pays de s'insérer durablement dans la modernité, mettant l'accent essentiellement sur les questions d'éducation. Il faut également reconnaître que au Qatar on a des visionnaires, on a des leaders qui ont, même s'ils ont fait des erreurs au départ, mais il faut reconnaître que ils ont contribué à insérer le pays dans la modernité. Le roi Abdallah qui fait des efforts considérables pour notamment permettre à l'Arabie Saoudite de relever le grand défi de l'éducation, qui est pour l'Arabie Saoudite l'enjeu majeur, parce que le grand défi pour eux dans les prochaines années, c'est devenir un pôle d'innovation. Et c'est la raison pour laquelle ils consacrent énormément de moyens aujourd'hui pour développer l'innovation et la recherche. Le Qatar, à titre d'exemple, consacre plus de 5 milliards de dollars par an, simplement pour la recherche et le développement.
Pôle d'innovation, cela veut dire que la France peut avoir et l'industrie française peut avoir peut-être son atout à jouer dans cette affaire.
Oui, la France a un atout considérable à jouer. Malheureusement, cela ne se reflète pas encore vraiment dans nos échanges. Il y a vraiment ce décalage entre l'excellence de nos relations politiques. La France entretient des relations très fortes avec la plupart des pays de la région, mais malheureusement, au niveau économique, il y a encore beaucoup à faire.
Un dernier mot concernant les femmes. Est-ce qu'elles réussissent aujourd'hui dans ces pays du Golfe?
Oui, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre, même si la situation est inquiétante dans certains pays. Il faut reconnaître qu'en Arabie Saoudite, les femmes n'ont toujours pas le droit de conduire. Il leur faut un tuteur lorsqu'elles ont envie de voyager. Mais il y a une réelle évolution. Il y a aujourd'hui plus d'étudiantes que d'étudiants dans les universités saoudiennes. On a de plus en plus de femmes d'affaires qui occupent des postes extrêmement importants dans certaines entreprises, voire même aujourd'hui dirigent certains groupes. Je parle dans mon livre de Dubna Olayan notamment, qui dirige le groupe Olayan, qui est un des plus grands groupes d'Arabie Saoudite et dont la fortune est estimée à plus de 13 milliards de dollars. On n'a pas de Dubna Olayan en France.
Merci François Issa Touazi, cofondateur du think tank Capmena, auteur du livre Le ciel et leurs limites, consacré aux pays du Golfe, publié aux éditions du Moment.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors la mort du roi d'Arabie fait évidemment l'événement dans la région et notamment la une de tous les journaux arabes, Alexandre.
Oui, des journaux qui sont barrés de noir en signe de deuil. D'ailleurs, un deuil national qui va de 3 à 7 jours selon les pays a été décrété. Et puis, il y a les nécrologies, évidemment, du roi Abdallah qui rendent hommage à ce qu'ils appellent sa capacité à conjuguer réforme et tradition. Alors, les journaux de certains pays sont plus sensibles que d'autres au décès du roi Abdallah. C'est notamment le cas de la presse égyptienne qui rappelle que le souverain saoudien a soutenu politiquement et surtout financièrement le régime du Caire contre les frères musulmans, une confrérie qui, comme en Égypte, a été décrétée organisation terroriste en Arabie Saoudite. Un concert de louanges qui reflète en fait l'importance qu'a pris l'Arabie Saoudite en ces temps d'instabilité arabe.
Et puis la presse israélienne, Michel Paul, n'est pas en reste et se fait également l'écho de la mort du souverain saoudien.
Oui, les médias électroniques et les sites internet de la presse écrite s'étendent longuement sur la disparition du roi Abdallah. Et tous ces rixes sont d'accord sur un point. Le souverain saoudien jouait un rôle clé, mais surtout a fait figure d'élément modérateur dans le conflit du Proche-Orient et dans les rapports entre le monde occidental et les pays arabes. On souligne ici notamment qu'Abdallah était à la pointe de la lutte contre le programme nucléaire iranien, un conservateur à l'esprit ouvert, résume Yediot Aharonot. Et les médias citent aussi les déclarations de responsables israéliens, Shimon Peres notamment, qui parle d'hommes intelligents qui avaient su présenter un plan de paix courageux, et l'actuel président Rivlin qui souligne que la vision d'Abdallah avait fait régner une certaine stabilité, notamment autour des lieux saints à Jérusalem.
Voilà pour la mort du roi d'Arabie. Mais pour l'essentiel, Michel Paul, vos journaux s'intéressent au raid israélien mené sur le Golan syrien, qui a fait 12 morts, on le rappelle, au total, 6 militaires iraniens et 6 membres du Hezbollah libanais. Et en Israël, on s'attend à des représailles.
État d'alerte maximum dans le nord, week-end tendu en perspective, voilà donc quelques-uns des titres sur la situation à la frontière nord d'Israël. Après le grave incident du début de la semaine, Israël, souligne Haaretz, s'est placé encore plus dans le collimateur iranien, en tuant un de ses généraux au cours de cet incident. Officiellement, Israël n'a pas revendiqué l'attaque, mais plusieurs éditorialistes font remarquer que les responsables israéliens se sont montrés embarrassés par cet incident qui a, semble-t-il, pris des proportions non souhaitées. Israël, affirme le quotidien, est tombé dans le piège syrien et plusieurs chroniqueurs estiment que l'attaque israélienne en Syrie n'est pas étrangère à la campagne électorale israélienne. Pour Netanyahou, explique-t-il, le thème sécuritaire est plus facile que le social, qui est la bannière principale de la campagne électorale.
Et puis le Yémen, Alexandre Bouchanti, l'instabilité dans ce pays retient aussi l'attention de la presse arabe.
Oui, une presse qui souligne que rien ne va plus dans ce pays qui était surnommé le Yémen heureux et qui aujourd'hui est un Yémen malheureux. Alors la presse, en fait, fait une sorte de description de l'état des lieux. Un palais présidentiel investi par les rebelles Houthis, qui sont une secte chiite soutenue par l'Iran, la démission du président de la République, pratiquement plus de gouvernement, le Sud-Yémen qui refuse les ordres de la capitale Sanaa et qui est au bord de la sécession, et comme si cela ne suffisait pas, la presse souligne qu'il y a aussi les attentats d'Al-Qaïda contre le pouvoir et les drones américains qui guettent les extrémistes musulmans et décochent sporadiquement des missiles, et puis il y a la mort du roi Abdallah qui risque de rendre la situation encore plus instable avec le grand voisin saoudien trop préoccupé par ses affaires intérieures.
Ajoutons, Alexandre, que des éditorialistes de la presse arabe se préoccupent toujours des suites de l'attentat contre Charlie Hebdo.
Oui, et au-delà des théories du complot qui sont véhiculées par certains, les analystes arabes estiment que deux acteurs proche-orientaux ont bénéficié de cette affaire, l'Israël de Netanyahou et la Syrie d'Assad. Alors, selon plusieurs éditorialistes, les attentats de Paris font l'affaire du Premier ministre israélien en pleine campagne électorale. Un Netanyahou qui pourra jouer sur sa stature internationale et sur l'inquiétude des Juifs français pour grignoter quelques points. Des attentats qui, selon la presse, font aussi l'affaire de Bachar el-Assad, dont les services de renseignement ont repris contact avec leurs homologues français. En tous les cas, c'est ce qu'assurent les journaux arabes. Mais les journaux restent aussi préoccupés par la multiplication d'actes islamophobes en France et craignent que, malgré les déclarations d'intention, les mesures prévues par le gouvernement français ne soient plus restrictives pour les musulmans.
Des frictions entre Israël et les États-Unis, Michel Paul, ce n'est pas nouveau. En tout cas, Netanyahou s'invite à Washington.
Oui, c'est le sujet qui fait la une de la presse du week-end. Netanyahou va prononcer un discours devant les deux chambres du Congrès à Washington à quelques semaines du scrutin en Israël. Il n'est pas passé par la Maison-Blanche. Les journaux parlent de la revanche d'Obama qui a annoncé que le Premier ministre israélien ne serait pas reçu dans la chambre ovale. Et puis Tamir Pardo, le chef du Mossad, le service secret israélien, a lui aussi droit aux premières pages des quotidiens. Fait extrêmement rare, il a été contraint de publier un rectificatif. Non, proclame-t-il, le Mossad ne s'oppose pas aux sanctions contre l'Iran.
On conclut cette revue de presse avec votre photo du jour, Michel.
Eh bien, c'est la photo de la chanteuse Madonna qui remercie la police israélienne qui a mis la main sur le hacker qui a trouvé dans l'ordinateur de la vedette ses dernières chansons inédites et les a mis en vente sur Internet.
Merci Michel, merci Alexandre. François Porcheron a réalisé cette émission que vous pouvez retrouver sur le site www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.
Couleur tropicale.